Vous avez entendu l'évangile d'aujourd'hui, c'est sur l'amour que nous serons jugés. À première vue, en première lecture, cet évangile-là paraît bien, comment on dit, social. Comme si le salut, comme si le salut était de faire la charité, d'habiller quelqu'un, de nourrir quelqu'un, de visiter quelqu'un. Ce n'est pas d'ordre social, c'est d'ordre authentiquement mystique. Saint Jean définit Dieu comme Dieu est amour, Dieu est lumière. Dieu n'est pas un sentiment, bien sûr. Dieu est trois personnes vivantes, trois hypostases libres et vivantes qui ne forment qu'un seul Dieu dans leur nature. Mais toute leur nature, ce qui se rapproche de plus de ce qu'on peut exprimer, nous, c'est par l'amour, par le mot amour. Amour, entendez, l'amour de charité. Et par ailleurs, dans l'évangile, le Seigneur nous dit que l'amour, c'est de donner sa vie pour celui qu'on aime. Contrairement à l'image, à la première vision que nous avons de l'amour, l'amour n'est pas quelque chose que nous ressentons, un bienfait, une satisfaction d'être aimé ou d'aimer sentimentalement. Le véritable amour, c'est de donner sa vie pour l'autre. L'amour, nous le recevons de Dieu. Dieu nous donne non pas un sentiment amoureux, mais il nous donne son existence, qui est l'amour même, l'amour vivant et personnel. Et cet amour entrant en nous, nous fait, par voie de conséquence, nous fait aussi, en découvrant sa nature, nous fait limiter, c'est-à-dire nous fait aimer aussi. Mais nous ne sommes pas désincarnés, puisque nous sommes incarnés, nous sommes dans ce monde, l'amour passe, pour donner notre vie à l'autre, passe par des gestes, par des attitudes, et pas par un sentiment. C'est ainsi que dans l'Évangile, le Seigneur nous dit de donner, de visiter les pauvres, de donner à manger à celui qui n'en a pas, mais pas par un devoir social, pas pour une égalité entre les hommes. Ça, c'est accessoire. Mais vraiment, par amour, parce qu'on aime l'autre. Et c'est pour cela qu'il dit aussi, par ailleurs, que le plus grand amour, c'est l'amour des ennemis. L'amour qui n'a pas, c'est Saint Paul qui dit ça, l'amour qui n'a pas de retour sur soi, un amour gratuit. Et comment, que veut dire de donner sa vie à l'autre, donner sa vie à Dieu ou à l'autre? C'est de toute manière, ou de plusieurs manières, de toutes les manières qui soient, je veux dire, c'est de mourir à soi-même pour faire vivre l'autre. C'est une préférence de l'autre par rapport à soi. De préférer le bonheur de l'autre, la joie de l'autre, plutôt que le soi. Donc ceci est une authentique mort naturel, d'une mort, je ne parle pas de la mort, de la cessation de la vie biologique, je parle de la mort à soi-même, de l'abandon de soi-même. Et toute notre vie chrétienne est fondée sur ce mystère-là. C'est mourir à soi pour faire vivre l'autre et recevoir la vie de Dieu. Et vous pouvez remarquer que Dieu lui-même, dans la seconde par la seconde personne de la Sainte Trinité, est lui-même mort de manière à pouvoir nous donner, nous communiquer la vie. Il nous donne ce qu'il est véritablement. Et, et si je vous parle de la mort aujourd'hui, c'est parce que c'est aussi le thème de cet évangile. Si vous voulez vivre dans le royaume des cieux, mourez. Évidemment, je ne vous invite pas à vous suicider, mais mourez à vous-même. Enfin, mourons à nous-mêmes, parce que nous sommes tous. Mourons à nous-mêmes pour vivre en Dieu. Mourir, qu'est-ce que c'est que la mort? Vous, point d'interrogation, parenthèse. Saint Paul, qui comme Moïse a eu de nombreuses visions, de nombreuses plusieurs fois a vu le royaume des cieux ouvert. Il a eu la révélation de l'autre monde. Eh bien, comme Moïse l'avait eu en son temps, Saint Paul nous explique comment les hommes vivent aujourd'hui avec deux corps, si je puis dire, à deux niveaux. Nous étions créés à l'image de Dieu et nous avons été déchus, nous sommes tombés de notre condition par l'introduction du péché dans le monde et notre participation à ce péché. Donc, nous avons perdu notre vie. Et maintenant, nous sommes dans des enveloppes. Notre corps de chair, nos muscles, notre psychologie, tout ce qu'on fait habituellement, on parle habituellement la chair, c'est une gangue, c'est une écorce, c'est une boîte dans laquelle est notre vraie vie. Mais c'est pas ça notre vie. Notre vie, elle est ailleurs. Notre vie, elle est au-dessus de cela. Elle est là-dedans, comme dans une prison. Mais notre corps aujourd'hui, notre chair, est une prison. Notre véritable vie, c'est d'apprendre à être libre. Apprendre à vivre là où nous sommes réellement, c'est-à-dire aussi dans le royaume des cieux. La difficulté, c'est que la boîte dans laquelle nous sommes, nous la voyons, nous la sentons et nous en souffrons, alors que l'autre royaume, l'autre niveau de notre existence où nous vivons véritablement aujourd'hui, nous le sentons moins logiquement parce que nous ne le sentons pas avec nos sens qui ne sont pas faits pour cela, mais nous le sentons, nous le savons avec notre foi. Et la mort, dans ce contexte-là, la mort consiste à sortir de la boîte, de la prison dans laquelle nous sommes, avec la grâce de Dieu, pour être libérés et pour vivre là où nous sommes appelés à vivre, et là où nous vivons en réellement, mais mystiquement, si vous voulez, mais mystérieusement, je vais dire. C'est-à-dire dans la présence de Dieu, avec la présence de Dieu, dans le royaume de ce qu'on appelle le royaume des cieux. Il n'y a pas moyen d'accéder au royaume des cieux si on ne meurt pas. Un enfant ne peut pas vivre dans le monde s'il ne naît pas, s'il ne se sépare pas un jour de sa mère. Eh bien, nous-mêmes, il faut que nous sortions de notre corps, il faut que nous mourions pour vivre de l'autre vie, de la vraie vie. Cette vraie vie ne vient pas de nous, elle nous a été accordée par Dieu. Et Dieu la cultive. Dieu accroît cette vie-là en nous. Et notre vie chrétienne consiste à participer librement, à mettre notre liberté au service de cette libération de notre être, de libération de cette boîte dans laquelle nous sommes enfermés. Et la mort, c'est cela. Je n'ai pas parlé de l'instant de la mort, c'est-à-dire, je n'ai pas parlé de l'instant de la mort de notre mort biologique. Mais dans cet ordre-là, qu'est-ce que la mort biologique ? La mort biologique, c'est une résurrection. La mort biologique, c'est la résurrection. C'est le passage entre cette forme de vie, de la boîte dans laquelle nous sommes, de la prison dans laquelle nous sommes, à cette autre demeure qui est la demeure de la liberté, de la vie éternelle, de la vie en Dieu. On l'appelle de plusieurs noms, qui ont plusieurs aspects d'une même réalité. Et si nous mettons, si l'Église a mis sous nos regards l'évangile d'aujourd'hui, en pré-carême, alors que nous entrons dans le carême dimanche prochain, c'est pour nous préparer à la résurrection de Pâques. Mais pour participer à cette résurrection de Pâques, il faut mourir avant. Donc il faut aujourd'hui apprendre ce qu'est la mort. Et pour ceux qui s'habituent à renoncer à eux-mêmes pour vivre en Dieu, ce qui est votre expérience à tous, notamment pendant la liturgie. Pendant la liturgie, vous dites « déposons tous ici du monde, déposons cette manière de vivre et élevons-nous, pas simplement psychologiquement, mais élevons-nous dans tout notre être, prenons conscience de la vie de l'au-delà dans laquelle nous sommes. » Et les chérubins chantent avec nous. C'est pour ça qu'on allume le polyhélios, les lumières qui sont allumées, pour les rendre visibles en quelque sorte. Ce sont des symboles, mais les symboles expriment une autre réalité. Et vous comprenez que pour connaître cette réalité, il faut évidemment mourir à notre logique scientifique. Scientifiquement, les bougies sont des bougies. La flamme est une flamme de feu. Mais ils symbolisent, ils manifestent, ils sont réellement, par l'intermédiaire du symbole, ils sont réellement ce qu'ils expriment, c'est-à-dire la lumière et le feu divin. C'est pour prendre simplement un exemple. C'est comme ça qu'on meurt à soi-même. Et vous comprenez que si nous, pour mourir à soi-même, pour apprendre à mourir à soi-même, donc pour apprendre à mourir paisiblement lors de la cessation de notre vie biologique, il faut toute notre vie apprendre à mourir à travers des petites choses. On meurt à soi en donnant à l'autre ce que j'aime, moi. Mais je le sacrifie, je le donne à l'autre. Je fais la volonté de l'autre pour mourir à moi-même. Je me détache de toute chose. Je me détache même de moi-même. Je ne vous ai pas décrit, Père Élie, mais je vous décris ce qu'on devrait faire. On se détache de tout ça. On apprend à mourir chaque jour. La mort, les pères de l'Église disent qu'il faut avoir, il faut cultiver en nous le souvenir de la mort. Il faut avoir la mort constamment devant soi. Ça ne veut pas dire qu'il faut s'imaginer en train de donner notre testament lors de notre dernier souffle à nos enfants ou à nos petits-enfants. C'est pas de l'imagination, mais c'est apprendre à nous détacher de toutes choses, sachant que toutes les choses sont mortelles, toute cette vie est mortelle, et qu'il faut attendre à s'en priver, en s'en détacher pour une vie plus grande, un amour plus grand. La réalité de ce corps spirituel que nous montre Saint Paul est un des fondements de notre vie chrétienne. C'est pourquoi Saint Paul nous dit que si le Christ n'est pas ressuscité, donc si nous ne ressuscitons pas, notre foi est vaine. Parce que Notre foi, c'est justement la mort-résurrection, ce passage-là de la mort à la résurrection. Et dans le mot même de mort, il y a cette notion de résurrection en même temps. Pas d'une résurrection qui viendra dans quelques années, mais qui est comitante, qui est en même temps que la mort. C'est pour ça que le mot mort est réservé aux hommes et que les animaux ne meurent pas. Les animaux crèvent. Quand on crève, enfin, par contre, un animal qui crève, c'est un animal qui n'a pas d'avenir après. Un homme qui meurt, lui, il ressuscite. Il connaît, il expérimente ce passage de la mort à la vie, de la vie, de cette enveloppe à la vie éternelle. Et c'est ça, c'est ce passage-là qui est préparé. Qui est préparé par le genre de vie que nous offre l'Église, par le jeûne, par la prière. La prière, qu'est-ce que c'est ? La prière, c'est un renoncement à l'exercice logique de ma vie pour me déposer en tout dans les mains, si je peux lui attribuer des mains, de Dieu, pour m'élever, pour sentir déjà aujourd'hui, pour expérimenter dès aujourd'hui un mode de vie qui n'est pas le mode de vie matériel, et de rester dans le silence de Dieu, sachant que lui répond, mais sans rien imaginer, en mourant même à nos pensées, pour vivre simplement en Dieu. C'est ce qui nous est donné de vivre aussi dans l'ascèse. Nous nous privons pendant le carême, pendant les jours carémiques, nous nous privons de certaines nourritures, non pas pour offrir un sacrifice à Dieu, mais pour manifester en nous-mêmes notre préférence d'une autre nourriture plutôt que cette nourriture matérielle. C'est la raison pour laquelle aussi nous avons le jeûne eucharistique. C'est-à-dire que avant de communier, on jeûne parce qu'on préfère, on meurt symboliquement à nous-mêmes en nous privant de nourriture matérielle pour nous nourrir de la nourriture du corps et de la vie du Christ avec la réception de l'Eucharistie. C'est aussi ce que nous apprenons à faire à travers l'obéissance. Quand il y a un beau soleil comme ça et que vous êtes prêt à partir au travail et que votre femme vous dit de prendre un imperméable alors que vous pensez qu'il n'y en a pas besoin, si vous dites oui ma chérie puisque tu le dis je vais prendre mon imperméable, vous lui obéissez, vous abandonnez votre volonté et vous faites la volonté de l'autre et vous apprenez comme ça à mourir. Et non seulement, je ne vais pas vous décrire tous les modes d'obéissance et de renoncement à soi-même, mais cette réalité-là, vous la vivez, vous la percevez, non seulement dans la liturgie, mais vous apprenez à la déceler, vous apprenez à la percevoir, vous apprenez à la concevoir, vous apprenez les mots qui conviennent pour les essayer de les définir, donc de les sentir davantage à travers toute la vie liturgique de l'Église, à travers l'orthros, à travers les vêpres et à travers l'orthros, à travers toute la pratique de l'Église. Et si vous voulez apprendre à mourir, autant que faire se peut, apprenez non seulement à obéir, apprenez non seulement à prier, apprenez non seulement à jeûner, mais apprenez aussi à venir dans la mesure du possible aux offices qui vous donnent, aux vêpres, liturgies et autres offices, qui vous donnent l'expérience intime, pas toujours dissible, mais véritablement une expérience vécue dans votre corps et dans votre âme, une expérience de la vie éternelle donnée par l'Église. Ce ne sont pas des obligations, ce ne sont pas des lois qui nous imposent à vivre dans les rythmes de l'Église, mais c'est d'apprendre à respirer en même temps que l'Église, de respirer de l'Esprit Saint qui fait de nous, qui nous fait apprendre, qui nous fait mourir à notre vie pour vivre dans une autre vie, celle qui est de la vie du Christ. C'est ainsi, par exemple, aussi, et je vais terminer par là, que on, dans les formes de communion entre les personnes, pour revenir à notre point de départ, où je nous réjouissais de la présence de nos sœurs, de nos pères et sœurs grecques et syriennes, ces moments de grâce, ces moments bénis, sont des moments très courts dans notre vie. C'est pendant quelques heures, quelques jours que nous avons la joie d'être ensemble. Ça, c'est un niveau de l'existence qui est nécessaire, il faut le sentir aussi. Mais au-delà de cela, il y a une communion, il y a un amour qui n'est pas d'ordre sentimental, il y a un amour qui nous vient de Dieu, qui est l'amour divin, que Dieu partage avec nous, et qui nous fait nous aimer les uns les autres d'un véritable don, d'une véritable communion d'amour avec Dieu. Comment peut-on être en communion, nous ? Les Syriennes, je les comprends. Mais comment nous pouvons être en communion avec Monseigneur Paul, que nous avons vu quelques quarts d'heure, avec Sœur Souvenie, et que vous ne connaissez que par récit. Et pourtant, notre expérience, c'est vraiment une communion entre nous. Quand vous avez l'expérience de la vénération des icônes et des reliques, comment pouvez-vous aimer Père Emilianos d'un amour qui n'est pas physique, qui n'est pas sentimental? C'est parce que vous sentez avec lui une communion d'existence en Dieu. Et comment pouvez-vous aimer Saint Jérôme, que vous n'avez, dont vous entendez parler presque pour la première fois? Aussi parce que vous expérimentez la mort d'un amour affectif pour vivre d'un amour de communion. Et à force de les embrasser, à force de les faire entrer dans votre vie, vous devenez ce qu'ils sont, et ils vous communiquent ce qu'ils sont aussi. Voilà le sens de la mort. J'espère avoir répondu à cette question sur la mort. Pour résumer, pensez à une chose, la mort, c'est la résurrection. C'est pas la mort prélude à la résurrection, la mort, c'est la résurrection. Donc quand on va mourir, à tous, d'une manière ou d'une autre, à notre vie biologique, ça va être immédiatement pour l'ouverture, pour la libération, pour l'accouchement à un autre monde, le monde du royaume des cieux, que nous pouvons apprendre à connaître un tout petit peu tout de suite. Et quand on voit la joie que ça peut nous donner dans notre condition actuelle, quelle joie ce sera après, quand enfin notre chrysalide, notre enveloppe, sera notre boîte dans laquelle nous sommes enfermés, sera disloquée pour nous libérer, pour libérer complètement. Donc bonne mort à tous, et le plus vite possible.